Eh bien, mes amis, j'aimerais vous saluer ce soir par cette parole qu'exprimait le psalmiste au psaume 73, quand il disait « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est tout mon bonheur. » C'est au psaume 73 que nous avons cette parole. Pour moi, m'approcher de Dieu, verset 28, c'est mon bonheur. Une autre version dit, c'est tout mon bonheur. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Dès ces premiers instants, nous voulons vraiment être conscients qu'ensemble nous voulons nous approcher, non pas de n'importe qui ou d'un homme, mais nous approcher ensemble de Dieu. Et nous approcher de Dieu, ce sera vraiment notre bien suprême. Plus que cela, tout notre bonheur. Et quant à toutes vos préoccupations dans ce camp, vous avez des enfants, vous pensez peut-être qu'il manque de quelque chose parce que vous n'êtes pas là. Bien, nous voulons placer vraiment notre confiance dans le Seigneur. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. Et je voudrais que ce soit vrai pour chaque moment ici, que vous puissiez penser que vous avez placé votre refuge pour votre enfant sous la tente, vous l'avez placé dans le Seigneur. Et alors, vous pourrez, à la fin de ce camp, quand vous rentrerez dans vos demeures, raconter toutes les œuvres du Seigneur pour chacun de vous. Et pour que vous soyez assurés que ce n'est pas moi qui ai simplement cette conscience, je vous lis encore cette autre parole de Jésus et qu'il a prononcée la nuit où il fut livré et qui se trouve au chapitre 14 de Jean, parce qu'il est plus important que nous nous placions d'abord en présence de sa parole que de ce que je pourrais vous exposer. Jésus disait, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parce que dès que vous commencez à vous troubler, dès que vous commencez à vous alarmer, vous n'êtes plus à l'écoute de la parole. Vos pensées sont ailleurs. Votre présence physique, oui, elle est toujours là, mais au fond, vous pensez, votre pensée est ailleurs. Et vous n'êtes plus rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et voyez-vous, c'est ce que le Seigneur voudrait faire, que tous les moments que nous passerons ensemble, eh bien, soient remplis en nous, que nous, tout en nous soit rempli de la plénitude de Dieu, que tout en nous soit rempli du Christ. Du Christ notre paix, du Christ notre joie, du Christ notre amour. Oh, combien nous serions heureux. Parce que là où il y a du vide, le Christ n'est pas. Il veut vraiment nous remplir de toute sa plénitude. Alors ce soir, après vous avoir rappelé ces paroles du Seigneur et nous être mis dans sa présence, je vous rappellerai simplement ce que vous savez déjà, puisque vous avez reçu certainement dépliant. Le thème ce camp organisé par les assemblées dites la mater, hein, eh bien, nous avons été conduits à l'intituler les œuvres de la foi. Parce que, comme vous le savez, une foi qui serait sans œuvre, elle serait morte. Et le monde dans lequel nous vivons, pour croire, eh bien, il a besoin de voir. Et si le monde ne voit pas les œuvres des chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens, eh bien, le monde ne croira pas. Vous multiplierez les réunions d'évangélisation, c'est pas ça qui va convertir le monde. Jésus l'a dit lui-même d'une façon très claire, que le monde devait voir nos œuvres. Il faut que le monde voie nos œuvres pour qu'il croit. C'est Jésus qui l'a dit. Et quand on prêche le salut par la foi, bien souvent, on oublie de parler que cette foi qui sauve, eh bien, elle se manifeste d'une façon visible par des œuvres. Et que ces œuvres, c'est avant tout cette transformation de notre vie qui fait dire au monde, ces gens-là sont différents des autres. Quelque chose est changé chez eux. C'est cela que le monde doit constater. Et voyez-vous, des réunions de témoignages où des chrétiens viennent témoigner simplement, pour moi, elles n'ont pas une grande importance. Parce que on se laisse aller à dire bien des choses, et en réalité, il y a peu de choses. Ce qui compte, c'est que les gens du monde qui vous connaissent, qui vous voient, puissent dire, voilà, ces gens-là, eh bien, sont différents des autres. Ils ne sont pas comme tout le monde, ils ne sont pas comme tout le monde, ils sont distingués du monde. Ils ne sont pas identifiés au monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et c'est cela qui frappe les gens incrédules. Et c'est le premier pas qui les conduit vers un intérêt pour notre foi, car nous sommes de ceux qui croyons être sauvés par la foi, et non par les œuvres, mais nous disons que si nous sommes sauvés par la foi, l'authenticité de notre foi a sa manifestation dans des œuvres, et qui ne nous laisse pas intacts, justement, mais qui nous transforme. Les œuvres de la foi. Et j'ai pensé que nous pourrions ensemble étudier comme base de ce thème une épître. L'épître de l'apôtre Jacques. L'épître de Jacques qui est ce que l'on appelle une épître catholique. Dans le sens d'une épître universelle. C'est une épître qui ne s'adresse pas comme celles qu'on appelle les épîtres pastorales. Ce n'est pas une épître qui s'adresse à quelqu'un, n'est-ce pas, comme les épîtres de Paul à Timothée. C'est ce qu'on appelle des épîtres pastorales. C'est comme un pasteur qui écrit à l'un de ses paroissiens. Tandis que les épîtres qu'on appelle catholiques, et qui sont au nombre de sept, c'est ces épîtres qui s'adressent non pas à une église particulière, comme celle de Paul aux Romains, de Paul aux Corinthiens, mais c'est une épître qui s'adresse à tous les chrétiens, pas à une seule église définie, mais à toutes les églises et à tous les chrétiens, à quelque milieu qu'ils se rattachent. De sorte que nous allons tous, en étudiant l'épître catholique de Jacques, c'est-à-dire cette épître qui s'adresse à tous, nous allons nous sentir concernés. Et j'espère que, en nous sentant concernés, en nous sentant interpellés, nous vivrons des moments où nous toucherons en quelque sorte le pan de la robe du Seigneur. Et vous savez que il suffirait que nous touchions le pan de sa robe pour que nous obtenions la guérison. Peut-être d'une maladie physique aussi, oui, nous y croyons aussi. Mais peut-être d'une infirmité spirituelle ou morale. car c'est cela, le contact de la foi, quand on a vraiment un contact avec le Seigneur, quelque chose se produit en nous. Et ce Seigneur, il s'est révélé dans la parole, et quand nous laissons la parole toucher nos cœurs, ça je peux vous le dire par expérience, cette parole peut nous faire du bien jusque dans nos os. C'est vrai, c'est pas moi qui l'invente, mais il l'est dit dans les proverbes que nous avons étudiés une fois dans ce camp, Mahanaïm ici autrefois, eh bien nous avons étudié les proverbes que la parole, n'est-ce pas, elle est la santé de toute notre chair, et elle touche jusqu'à la moelle de nos os. Et que de fois, quand on s'est trouvé fatigué, épuisé, et que le Seigneur, par son esprit, nous rappelait une parole, hein, nous nous sommes sentis fortifiés et capables de traverser certaines épreuves dans la paix et en restant dans la confiance et dans la joie. Eh bien, je demande à Dieu que nous vivions vraiment dans les matinées où nous aurons l'occasion de nous pencher sur cet épître de Jacques, que nous vivions de ces moments-là et que tous puissent dire « mais c'était pour moi ». Au fond, cet épître de Jacques, même un réformateur, c'était Luther, disait « c'est une épître de paille », parce qu'il l'avait même, tout en étant réformateur, il ne l'avait peut-être pas encore bien saisi. Bien non, l'épître de Jacques, ce n'est pas une épître de paille, nous allons nous en rendre compte, c'est une épître que nous allons manger ensemble. Comme le disait Jérémie, tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées. Ça ne fera plus l'épître de Jacques, l'épître catholique de Jacques dans le Nouveau Testament. Ce seront des paroles qui étaient dans cette épître, mais qui seront dans notre cœur. Fixées, comme je dis souvent, dans notre sensibilité, c'est-à-dire que ça va réagir avant nos nerfs, hein, parce que vous savez ce que c'est que nos nerfs, hein, nos nerfs qui souvent sont contrariés. Eh bien, tout à coup, il y a une parole qui est plus forte que nos nerfs et qui domine nos nerfs. Et ça, c'est le meilleur des remèdes. Et je crois que nous devrions retrouver cette parole, retrouver la force de cette parole qui guérit nos âmes de toutes ces infirmités, de ce stress. Parce que vous savez, si vous croyez cette parole, si vous prenez cette parole au mot, mais ça change votre vie. Si c'est vrai ce qui est dit dans cette parole, et si vous croyez que c'est vrai, ben Dieu ne peut pas mentir. Hein? Vous mettez Dieu au défi, est-ce que Dieu ne va pas agir quand on est abandonné entre ses mains, quand on dit non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Mais avant, hein, alors n'oubliez pas cela, avant d'avoir pu dire ça, Jésus lui-même, hein, qui expérimentait que l'esprit est prompt et que la chair est faible, parce qu'il avait pris quoique dans une chair sans péché, il avait un corps de chair, et il éprouvait en lui-même que la chair était faible. Et il a pu dire, dans la faiblesse de cette chair qui était pourtant sans péché, s'il était possible que cette coupe passe, loin de moi. Et il était angoissé jusqu'à la mort, et même la sueur qui coulait de son front était semblable à des grumeaux de sang qui tombaient jusqu'en terre. Mais quand il a pu dire, toutefois, non pas ma volonté. Il l'a dit, lui, Jésus, le Fils de Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? Il se relève. Hein. La lutte est finie. Voyez-vous, croyez-le dès ce soir, hein, quand vous avez accepté la volonté de Dieu dans votre cœur en disant, bien maintenant Seigneur, c'est peut-être dur, mais je l'accepte, ce que toi tu veux, je te fais confiance. Eh bien, si vous acceptez cela, vous recevrez une force extraordinaire et vous pourrez aller au travers de toutes les circonstances en étant dans la paix et content sur le Seigneur. Il ne va pas vous laisser, il ne va pas vous abandonner. C'est là les sentiments que j'ai dans mon cœur. Je prie depuis longtemps pour cette semaine, ou que nous allions passer ensemble, je l'ai présenté au Seigneur et il m'a imposé au fond cet épître de Jacques. Et c'est pourquoi nous allons y découvrir les instructions, les corrections, parce que nous avons besoin d'être corrigés, et puis aussi les consolations. Nous avons besoin aussi d'être consolés. Il y a des cœurs qui souffrent. Je sens, je sais. Eh bien, vous allez recevoir des consolations. Mais des vrais, hein, pas les consolations des amis de Job, et que Dieu me garde d'être pour vous un ami de Job, hein, mais que vous puissiez recevoir, donc, cette semaine, qui va s'ouvrir demain, eh bien, que vous puissiez recevoir les consolations du Seigneur par cet épître de Jacques. Il y a des instructions. C'est-à-dire, on va se laisser édifier, on va se laisser construire. Vous êtes peut-être venu démoli sur un point ou sur un autre. Eh bien, ici, on ne va pas continuer la démolition. Ici, on va construire. Mais sur le roc de la parole de Dieu, vous allez être édifié. C'est cela que veut dire le mot édifier, construire. Parce que vous avez besoin d'être fortifié. Puis, vous allez être aussi corriger. Et puis moi le premier, parce que chaque fois que je lis la parole, eh bien, elle me corrige, parce que je ne suis pas un arrivé, je ne suis pas un type parfait qui pense être au but, non, pas du tout. Je me laisse reprendre par la parole, et ça fait du bien de se laisser reprendre. Tiens, voilà, je me suis oublié là-dessus. C'est peut-être de notre langue qui sera question dans l'épître de Jacques. Hein. Et nous verrons tout le mal qu'on peut faire avec la langue. Mais vous verrez aussi tout le bien que vous pourriez faire avec votre langue. Avec ce petit membre-là. Hein. Ce bien que vous pouvez faire. Mais aussi ce mal qu'on est capable d'accomplir par un mot. Tandis que une parole dit à propos, il est dit que ce sont des pommes d'or incrustées d'argent. La parole dit à propos, pouvoir dire un mot à quelqu'un, mais le mot qui correspond, un mot que cette personne se souviendra toute sa vie, 40 ans après, elle vous dira, dans cette circonstance-là, Dieu vous a donné une parole pour moi, et je l'ai vécue, je l'ai réalisée, c'est comme ça que je n'ai pas coulé. Et c'était une parole. Celui qui l'a prononcée ne s'en souvient même plus. Mais la personne qui l'a reçue, elle en a vécu. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors mes amis, je vous dis ça pour vous montrer tout ce que vous pouvez attendre. Et il y avait encore une parole où Jésus dit, justement le soir de son arrestation, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Vous le croyez ? Vous avez des demandes à faire? Ce serait bien le moment. Pendant cette semaine, vous allez prier. Mais vous allez prier au nom de Jésus, c'est-à-dire pas en disant « Au nom de Jésus, amen » après vos demandes, hein, simplement une phrase « Au nom de Jésus, amen ». Non, ça veut dire « Seigneur, je demande à ta place des choses que toi tu aurais demandées. » Et Jésus, lui, quand il priait son Père, il disait « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » C'est pour ça que votre vie de prière doit être une vie où vous devriez pouvoir parler des exaucements de prière. Nous en avons parlé tout à l'heure avec un de nos amis, où on peut dire qu'avec sa famille, dans ses circonstances propres, il n'y a pas si longtemps, c'est pour vous montrer que c'est peut-être en 1987, et même il y a des mois, mais le mois passé ou le mois avant, eh bien Dieu intervient dans nos vies d'une façon merveilleuse. Le doigt de Dieu, il est là. Ça nous bouleverse, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Nous ne nous y serions pas pris de cette manière, mais tout à coup on voit, mais c'est merveilleux ce que tu as fait. On est complètement dérouté nous-mêmes, mais on est plein d'adoration. Puis on se met à frissonner, à trembler, à dire, si ça s'était passé autrement, quel malheur. Mais donc, si vous vous laissez faire par Dieu, si vous vous confiez dans le Seigneur, vous serez béni. Donc, l'épître de Jacques va nous enseigner, nous corriger, et puis nous instruire. Ce sera donc les enseignements pratiques sur la vie chrétienne. Le but de cette semaine, c'est de laisser la parole de Dieu renouveler la vie spirituelle de chacun de vous. Renouveler notre vie spirituelle de chaque individu. Puis forcément, si chaque individu est renouvelé dans sa vie spirituelle, qu'est-ce que ça fera dans la famille ? Renouvellement de la vie spirituelle dans la famille. Et puis, si la famille est renouvelée spirituellement, qu'est-ce que ça fera dans l'église ? Elle sera aussi renouvelée. Il faut commencer par faire renouvellement personnel, renouvellement familial et renouvellement de nos communautés qui, bien souvent, laissent tant à désirer et n'attirent pas vraiment beaucoup de gens. Les gens disent, qu'est-ce qu'ils font là ? Ils dorment ou je ne sais trop quoi. Hein. C'est pas intéressant. C'est pas ça, mais si vous êtes rempli de quelqu'un, ce quelqu'un déborde et il attire. Alors, dès lundi matin et jusqu'à vendredi matin, Dieu voulant, nous étudierons un chapitre de l'épître proposée, cette épître de Jacques. Je vais vous donner une petite brochure qui contient toute l'épître de Jacques. Vous pourrez la lire, mais nous étudierons dans vos Bibles parce que c'est plus profond encore. Mais vous aurez quand même chacun votre épître de Jacques où vous pourrez faire des comparaisons. Alors nous commencerons cette épître lundi matin. Nous étudierons un chapitre chaque matin. Je vous dirai un peu comment, parce qu'il y a combien de chapitres dans l'épître de Jacques ? 5. Vous savez combien on a étudié le verset l'année passée dans notre camp familial ? 618. C'était beaucoup, hein ? Eh bien, ici, il y en a seulement 118. Dans l'épître de Jacques, il n'y a que 118 versets. Alors, on pourra s'arrêter, évidemment, davantage sur chacun de ces versets. Mais je vous propose un chapitre par matinée. Alors, dans le chapitre premier, bien, nous verrons comment un chrétien doit envisager et supporter les épreuves. Hein, parce que on est dans un temps où nous demandons, mais on sort d'une épreuve des fois pour rentrer dans une autre. Mais comment supporter les épreuves ? Comment les envisager ? Ou aussi, comment sortir victorieux d'une tentation ? Parce qu'il y a toutes sortes de tentations aujourd'hui dans ce monde. Hein. Alors, nous voudrions connaître le secret de la victoire pour triompher des tentations. Car ce n'est pas Dieu qui nous tente. Dieu ne tente personne. Il nous éprouve, mais lui ne nous tente pas. Et puis, nous verrons aussi quels sont les auditeurs de la parole et quels sont aussi ceux qui observent la parole. La différence entre être seulement un auditeur de la parole, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Ils écoutent la parole, ils vont à la messe, ils vont à un culte, ils entendent une lecture ou ils font une lecture, mais ils ne la mettent pas en pratique. Alors, il ne faut pas être seulement des auditeurs de la parole ou dire ben, c'est le dixième camp que moi j'entends, mais il faut devenir non pas seulement des auditeurs mais des observateurs de cette parole. Alors mardi nous aurons le chapitre 2, mercredi le chapitre 3, jeudi le chapitre 4 et vendredi le chapitre 5. Et vous verrez que nous aurons une nourriture excellente. C'est pas moi qui vous la donnerai, c'est le Seigneur. Et alors, dès demain, dimanche, à 19h, pour les parents et les enfants, eh bien, je raconterai l'histoire de quelques mamans de l'Écriture. Ça vous plaît ou ça vous déplaît ? Ben, que ça vous plaît ou que ça vous déplaît, nous parlerons de mamans. Quelques mamans de l'Écriture, et puis un peu pour intéresser vos enfants, et vous par vos enfants, parce que certainement vos enfants vont vous poser des questions, je vous ferai une toute petite description, pas trop poussée, de la maman dont je vous parlerai. Hein, et vous essayerez de deviner de quelle mer je vais vous parler. Demain soir, à moins que le Seigneur me montre autre chose, je vous parlerai d'une maman de 3 enfants. C'est déjà quelque chose. D'une maman de 3 enfants, est-ce qu'elle peut nous dire, cette maman de 3 enfants? Si vous en voulez plus, elle a une fille et 2 garçons. Bon. Fini. Lundi soir, eh bien, nous verrons une maman de 6 enfants. Le double. Quelque chose, hein, d'avoir 6 enfants. Pas encore tout à fait une mère québécoise autrefois. Mais enfin, une maman de 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Je dirai aux enfants, à vos enfants, hein, puis peut-être que trouveront, mais peut-être qu'ils vous poseront des questions pour que vous les aidiez à trouver. Puis, si on arrive à mardi soir, je vous parlerai d'une maman qui a eu 1 enfant sans être mariée. Ça arrive. C'est aussi dans la Bible. Et cet enfant lui a été enlevé, elle l'a cru mort, et finalement, Dieu le lui a rendu vivant. À vous de chercher, à vous de trouver. Vous croyez que vous connaissez toute la Bible, hein?
Ouais, on croit toujours, on l'a Bible, vous connaissez ça.
C'est déjà ça. Il faut faire très attention avec les enfants, parce que quand vous leur dites que vous allez leur raconter une histoire, ils vous disent ben, je la sais. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de captiver leur attention pour qu'ils ne croient pas tout savoir. Nous aussi, on croit toujours qu'on sait tout. Puis au fond, on ne sait pas grand-chose. Quand il faut entrer dans le détail. Et c'est ça qui est passionnant. On parle d'enlèvement. Il y a des enlèvements d'enfants. Ben, vous croyez qu'il n'y en a pas dans l'Écriture? Puis des menaces de mort d'enfants. Il y a un enfant qu'on cherche encore, hein, on a tué son père. On est dans l'actualité avec la Bible. Alors, si on arrive au 4e soir, on parlera peut-être d'une maman de 2 enfants, 2 garçons, qui pendant 3 ans ont pu suivre la meilleure des écoles de leur temps. Mais leur maman, elle aurait toujours voulu qu'ils soient les premiers. Vous connaissez ces mamans un peu détestables, qui ne pensent qu'à une chose, c'est que leurs enfants, ses enfants, soient les premiers. Puis évidemment, ça crée des jalousies vis-à-vis des camarades. Hein. C'est pas très drôle pour les camarades. Surtout quand les mamans vont encore à l'école ou enseignent le professeur pour essayer d'influencer le professeur. C'est aussi dans la Bible, ces choses-là. Je vois qu'il y en a qui rient. Et bien, ça me fait plaisir qu'en parlant de la Bible, on puisse aussi rire. On ne rit pas de la Bible. Mais on dit, c'est quand même formidable la Bible, il y a tout. Il y a notre portrait, c'est vrai. Puis, alors le cinquième soir, on pourrait prendre peut-être une maman qui n'avait qu'un enfant, qui était probablement veuve, parce qu'on ne parle jamais de son mari. Il n'est pas dit qu'elle était veuve, mais enfin, on parle que d'elle et de son nom, mais jamais de son mari. Donc, elle devait fonctionner toute seule. Ça arrive aussi, hein. C'est ça? Ça arrive aussi. Donc, vous voyez, je demandais au Seigneur qu'il donne des paroles qui puissent toucher tous nos cœurs. Moi, je connais personne, selon la chair, je ne sais pas vos circonstances, mais je voudrais que vous puissiez vous dire, le Seigneur avait une parole pour moi, et quelle que soit ma situation, il peut me comprendre, je sais qu'il m'aime, il a aidé d'autres personnes qui étaient dans ma situation, il va aussi m'aider et je m'en vais recevoir une bénédiction et ma vie ne se passera plus comme avant. Je ne me sentirai plus frustré, je ne serai plus une desséchée, mais je serai une épanouie au sein même de ma situation et de mes circonstances. Et si on arrive à vendredi soir, alors, eh bien, là, je ne veux pas trop vous en dire, eh bien, nous essayerons de vous présenter ce qu'une mère peut attendre de ses enfants ou de son enfant. Et voyez-vous, la plus grande grâce accordée au foyer sans père ou au foyer sans mère, je pense que le Seigneur va nous la révéler. Le Seigneur peut donner une plus grande grâce que tout ce que vous pouvez vous imaginer. Parce que vous, vous imaginez une solution dans votre situation, mais vous l'imaginez d'une façon tout à fait terrestre, humaine. Et j'aimerais que vous puissiez discerner cette plus grande grâce dont nous parle l'Écriture et ce double qu'il peut donner là où on sent toute notre insuffisance. Alors voilà pour ces rencontres avec les enfants. Mais vous voyez que ça ne sera pas facile parce qu'il faut que je raconte quelque chose qui intéresse les plus petits, hein, puis quand même aussi les plus grands, mais que je puisse me mettre au pied des plus petits. Alors je demande que je ne sois pas moi-même, mais que ce soit lui qui me tienne, et que les petits-enfants puissent se souvenir de l'histoire que je vais leur raconter, et que dans leur cœur, un amour nouveau pour une maman, pour leur maman, puisse aussi naître. Je pense que le Seigneur peut le faire. Moi, je suis insuffisant pour cela, mais Dieu peut le faire. Et alors le soir, qu'est-ce qui nous restera? On va terminer. Le soir? C'est la catastrophe. Il faudrait quand même qu'on parle des pères. Est-ce que ça vous intéresse? Qu'on parle des pères? Les responsabilités et les privilèges. Les pères, un privilège? Peut-être. Ça pourrait être formidable si tout d'un coup vous pensiez, j'ai ce privilège-là. Et je l'ai encore. Il y en a qui ne l'ont plus. J'ai encore ce privilège. Je suis père. Je suis père. Mais alors j'ai aussi des responsabilités. Et tous nos exemples, nous les tirerons de la Bible, vous le savez bien, parce que nous ne savons rien par nous-mêmes. Alors nous chercherons jour après jour à connaître vraiment ce que Dieu pense des situations dans lesquelles nous pouvons être. Parce que quelle que soit votre situation, même si le Père n'est pas là à la maison, eh bien, vous allez apprendre ce que Dieu peut être pour vous. Mais si le Père est là, eh bien, je veux croire que nous, les pères ou les grands-pères, eh bien, nous comprendrons nos responsabilités. Et que nous avons des privilèges extraordinaires de nous pencher sur ces petites vies qui nous sont données et qui vont nous succéder. Alors, je ne vais pas vous dire sur quel père je parlerai. Parce que vous allez me dire, mais si vous prenez les pères de la Bible, ben les pères de la Bible, on n'est plus dans le temps de la Bible. Vous croyez qu'on n'est plus dans le temps de la Bible? Qu'est-ce que c'est que les temps modernes, selon l'Écriture? Comment est-ce que vous appelleriez les temps modernes? Les temps de la fin, hein? Les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours, dans ces temps modernes, nous sommes dans les derniers jours. Alors, on vous parlera des pères du temps des patriarches, peut-être Abraham ou Job. Père au temps des patriarches. Vous allez dire, mais on n'est plus au temps des patriarches. Hein? Et vous croyez que c'était facile au temps des patriarches? Vous croyez qu'il n'y avait pas des difficultés au temps des patriarches? Vous croyez qu'on ne pouvait pas être stressé au temps des patriarches? Il y en a eu des gens stressés au temps des patriarches. Mais comment est-ce qu'ils ont solutionné leurs problèmes? Qu'est-ce qui a permis à ces hommes de résister, de se tenir debout? Puis on verra, ben oui, le père Abraham, on se dit, oui, pour lui c'est une exception, mais le père Jacob, c'est une autre affaire. Eh bien, je voudrais peut-être vous parler du père Jacob et de ce qu'il peut nous apprendre. Parce que finir sa vie dans l'adoration, c'est quelque chose. Après avoir eu toute espèce d'écart, après avoir eu toute espèce de chute et de lutte, après avoir beaucoup pleuré, finir sa vie en bénissant ses enfants et puis en adorant. Malgré tout, voilà ce que Dieu peut faire avec un homme si misérable qu'il soit, un père. Et vous verrez, peut-être que nous parlerons de Josué. Quand vraiment, parce que vous avez des enfants, vous devez les enseigner pour qu'ils deviennent un jour des pères. Mais il faut leur dire ça dès leur plus jeune âge. C'est à 5 ans, même avant, qu'on peut déjà mettre ces semences qui vont faire d'eux des père. C'est parce qu'on n'a jamais enseigné ça aux enfants, qu'un jour ils seraient pères, qu'il y a de si mauvais pères, et que quand je suis venu pour la première fois au Québec, on m'a dit, ne présentez jamais Dieu comme un père, parce que on a de trop mauvais souvenirs de nos pères. Ça, c'est peut-être vrai pour certains, mais il y en a qui ont quand même un bon souvenir de leur père. Mais ce que nous devons faire, c'est d'enseigner nos enfants qui vont devenir des pères. N'attendez pas qu'ils muent pour commencer de leur dire, ben tu sais, un jour, tu pourras peut-être te marier puis devenir un père. Il faut qu'ils sachent dès son enfance qu'un jour il sera peut-être père. Mais il y a des pères qui sont ignobles. Et s'il y a des pères qui sont ignobles, c'est parce que souvent ils ont eu aussi des parents ignobles. Comprenez-vous? Et c'est cela. Ce n'est jamais trop tôt d'enseigner ces vérités à nos enfants. Il faut mettre ces semences dans leur cœur. Et alors vous verrez que vos enfants auront une vie toute différente. Je crois que Dieu peut être glorifié aujourd'hui comme il l'a été hier par ces hommes de Dieu dont il est question dans le chapitre 11 de l'épître aux Hébreux. Je ne vous en dis pas plus, mais je pense que dans ces quelques soirées, nous aurons l'occasion de parler de père, qui avait peut-être une très belle situation, si je pense à David, hein. David était un roi, David était un homme remarquable, mais il n'a pas été un bon père. David n'est pas un exemple en tant que père. Salomon peut être un exemple en tant que jeune homme, qui prie et qui demande de la sagesse, mais vous ne pouvez pas prendre Salomon comme exemple d'un homme vertueux une fois qu'il est arrivé à la gloire. Hein? Parce que prendre toutes ses femmes et mourir à 60 ans, alors qu'il avait dit que celui qui est sage prolongerait ses jours, il n'a pas été sage, il a bien commencé, mais il a mal fini. De sorte que vous voyez, on peut bien commencer, hein, mais il faut continuer. Alors voilà pourquoi nous avons ces camps, et pourquoi je suis encore heureux d'être avec vous, parce que cette année nous n'aurons pas les camps Mahanaïm, puisque nous avons fait une année de relâche, pour la raison particulière que je serai pas ici au mois d'août, mais en Italie pour le 40e camp de Florence, puisqu'il semblerait que je suis un des derniers orateurs survivants de ces premiers camps il y a 40 ans. Et les gens que je vais rencontrer sont les parents de jeunes qui ont maintenant 20 ans ou plus, et ces parents voudraient qu'on enseigne les enfants comme eux ont été enseignés. Alors, j'ai pas voulu leur faire défaut, et je me suis dit, eh bien, pour le Québec cette année, ça leur permet de souffler, ou peut-être aussi de se demander s'il faut que ces camps Mahanaïm continuent. D'abord, de toute façon, on n'est pas éternel, et on ne fait que passer, et comme dit Paul, on se doit non pas seulement à un pays, mais à d'autres où nous avons déjà travaillé. Eh bien, je me recommande à la grâce de Dieu pour ces journées. Je vous demande de prier pour moi, pour que je sois le serviteur du Seigneur au milieu de vous, que vous ne sentiez pas l'homme, que vous ne voyiez pas l'homme, que vous ne vous souveniez pas de l'homme, mais que vous entendiez la parole de Dieu. Et j'ai été très frappé. Plusieurs enfants sont déjà venus me dire, tu vas nous raconter l'histoire de Ruth? Pourquoi? Mais tu sais, elle était belle, on s'en souvient, et même on l'a entendue en cassette. Alors j'ai dit, mais tu ne voudrais pas quand même que je te raconte encore une fois l'histoire de Ruth, puisque tu la sais déjà. Mais vous voyez, les enfants, ils aiment même qu'on leur raconte une chose qu'ils ont déjà entendue. C'est très frappant, tandis que nous, on dit, oh, on sait déjà. Mais non, ce ne sera pas l'histoire de Ruth, ce sera l'histoire de quelques mamans. Mais ça fait quand même plaisir de voir que les enfants se souviennent. Et puis, l'autre jour, je parlais à un petit qui se souvient très bien de l'histoire des anges. Hein, quand on a parlé une fois des anges. Les anges noirs et les anges blancs. Puis il y en a même un qui avait trouvé l'ange gris. Il n'était pas trop méchant, mais pas trop gentil non plus. Quand on lui demandait quel était son ange, il a dit « il est gris ». Pas bêtes les enfants. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir et te remercier parce que nous pouvons placer maintenant sous ton égide toute cette semaine. Nous te remercions d'avoir amené nos amis, de les avoir préservés dans le chemin. Nous te demandons aussi pour ceux qui doivent encore nous rejoindre demain de les garder de tout mal, et de nous donner une grande cohésion, de nous donner beaucoup d'amour les uns pour les autres, que nous puissions nous aider les uns les autres, et que tous puissent se sentir aimés, que personne ne se sente isolé ou solitaire, mais que vraiment, dans ces contacts que nous aurons, nous puissions réaliser que tu es toujours, ô Jésus, de moitié entre nous. Et que ce soit le camp de Dieu, le camp du Seigneur, le camp où tu as réuni des âmes en communauté pour les édifier, pour les corriger, pour les consoler. Et nous voulons te demander que demain, dans le culte du matin, nous puissions avoir un moment d'adoration et que nous puissions encore discerner de quel amour tu nous aimes. Donne-nous le message qui pourra ouvrir ce culte, donne-nous le message qui pourra aider chacun à se sentir personnellement et par son nom aimé de toi pour ta seule gloire et ton honneur. Garde ce camp, veille sur les tentes. Merci d'avoir été autrefois un campeur dans le désert avec Israël, un peuple au cou raide, mais que tu as supporté, que tu as pardonné, que tu as dû châtier aussi, mais que tu as introduit dans le pays promis, que nous aussi, tu nous prépares à une riche entrée dans ton royaume, car nous ne faisons que passer sur la terre, et ce que nous savons, c'est que tu viens bientôt. Alors d'un seul cœur, nous te disons oui, amen, viens, Seigneur Jésus, amen.
si nous avons péché et que nous sommes auteurs des épines et des ronces qui croissent maintenant sur le sol à cause de nos manquements, tu nous dis que toi-même, tu veux détruire ces épines. Et ce n'est pas les épines qui régneront sur nos vies, mais c'est toi, ô Jésus. Et nous savons que pour que les épines ne règnent pas sur nos vies, tu as accepté qu'elles soient sur ta tête. Tu t'es manifesté à Moïse dans un buisson d'épines, puis ensuite, on a vu les épines sur ta propre tête. Nous voulons te célébrer parce que tu ne nous as pas consumés. Même si nous étions par nature des épines, morts dans nos fautes et dans nos péchés, mais tu as fait une œuvre qui nous a régénérés. Nous te bénissons pour tout ce que nous enseignent les arbres, comme aussi tout ce que nous enseignent les animaux. Et nous voulons te demander que nous soyons toujours plus à l'écoute de ta parole et que nous puissions nous conformer à tes désirs. Et que, ensemble,
mes bien-aimés, le Seigneur, notre Dieu, est venu nous chercher, il nous a accueillis et nous sommes maintenant en sa présence pour le bénir. Il nous dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et avant de vous communiquer le message qu'il a mis sur mon cœur, je voudrais que nous nous inclinions dans la prière. Dieu notre Père, nous sommes heureux d'être rassemblés au nom de Jésus, de ton Fils bien-aimé qui a promis sa présence, là où deux ou trois sont assemblés ensemble. Son nom. Il serait au milieu d'eux. Et nous te bénissons parce que c'est Jésus qui a dit aussi, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez point, car c'est à de tels que le royaume de Dieu. Et nous savons que ces enfants, tu les as pris dans tes bras et que tu les as bénis. Qu'ils soient bénis au milieu de nous et que tu nous donnes à tous ici ce matin un cœur d'enfant et que nous puissions ensuite te louer, te célébrer et t'adorer avec des cœurs simples et heureux d'être sauvés et de savoir que bientôt nous serons dans la maison du Père où tout dit gloire. Amen. Mes bien-aimés, le texte que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin se trouve dans Ésaïe au chapitre 43e. C'est au milieu de la Bible à peu près, vous voyez, et il y a un chapitre qui est le 43e, et là on entend la voix du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il parle, et il dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui est le Seigneur, qui t'a créé, ô Jacob. Alors, au lieu de mettre Jacob, mettez votre nom. Ainsi parle maintenant le Seigneur qui t'a créé, ô, puis vous mettez votre nom. qui t'a formé, ô Israël. Alors, de nouveau, à la place d'Israël, eh bien, vous mettez votre nom, à moins que vous vous appeliez déjà Israël. Ne crains point, car je te rachète. Ou il est dit dans une autre version, je t'ai racheté. C'est déjà fait. Littéralement, c'est déjà fait. Ne crains point, car je te rachète, je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. Votre nom, vous le connaissez. Je t'appelle par ton nom. Bien, écoutez la voix du Seigneur. Il vous appelle par votre nom. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Tu es à moi. Est-ce que vous le croyez? Tu es à moi. Qui est-ce qui vous parle? C'est pas moi. C'est le Seigneur qui vous dit en ce matin du 5 juillet 1987 que vous êtes à lui, que vous lui appartenez, que vous lui êtes infiniment cher. Et il vous fait une promesse. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, même si c'est un grand fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne t'embrasera pas. J'arrête là cette lecture en vous demandant de faire comme Marie, la mère bénie de Jésus, qui, chaque fois qu'elle entendait une parole concernant son fils ou la concernant, elle repassait ces paroles dans son cœur. Alors quand je dis, ainsi parle l'Éternel. Qui est l'Éternel? C'est le Seigneur. Ce Jésus qui nous a tellement aimés, c'est lui qui parle. Puis il parle quand? Maintenant. Aujourd'hui, 5 juillet, il a une parole pour vous maintenant. C'est en pleine actualité. Il parle maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui. Maintenant, c'est le jour de la grâce. Maintenant, c'est le jour du salut. Et il vous dit, je t'ai créé. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous existez? Parce qu'il a voulu votre existence. Vous n'êtes pas l'effet du hasard. Vous n'êtes pas simplement né par accident. Il vous a créé. Vous aviez une place dans sa pensée. Et de toute éternité, il voulait que vous existiez. Si tu existes, que tu sois petit ou que tu sois grand, eh bien, c'est que lui l'a voulu. Il t'a créé. Et même, il ajoute, c'est moi qui t'ai formé. Dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait un nez comme ça? Ou bien, pourquoi tu m'as fait des yeux bruns alors que j'aurais voulu, moi, des yeux bleus? Ou bien, pourquoi tu m'as fait petit alors que j'aurais voulu être grand? Je sais pas, si beau d'être très, très grand, trop grand, hein. On a l'air d'une girafe. Eh bien, non, c'est moi qui t'ai formé, puis je t'ai formé comme j'ai voulu, comme le potier pétrit sur l'argile. Eh bien, l'argile ne dit pas au potier, pourquoi est-ce que tu m'as fait ainsi? Acceptez-vous comme vous êtes, et vous serez heureux. C'est moi qui t'ai, pas seulement créé, mais qui t'ai formé. Et Dieu prend la responsabilité de tout, même de nos infirmités. Il dit dans le chapitre 4 de l'Exode que c'est lui qui a fait le sourd, le muet et l'aveugle. N'est-ce pas moi, l'Éternel, qui les ai faits? Et il a une raison pour ça. Alors, quand on sait cela, nous voilà réconciliés même avec nos infirmités. Puis on peut lui dire, ben voilà, tu m'as formé comme cela, alors moi je peux pas être autrement, mais toi tu peux tout faire pour moi. Alors je m'accepte comme tu m'as formé. Et vous savez, quand on a pu déjà s'accepter, au lieu de toujours murmurer, n'être jamais content parce qu'on a été formé comme cela, mais c'est contre Dieu que vous péchez alors. Dites-lui, merci Seigneur de m'avoir fait comme je suis, et maintenant je m'en remets à toi. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il y a la suite. Quand on a pu vraiment s'accepter, eh bien, on entend ce qu'il nous dit. Ne crains point. Oh, vous avez toute espèce de crainte. Même au début de ce temps, je voudrais que cette parole pénètre dans votre cœur. Ne crains point. Et il vous appelle par votre nom, et il vous dit, à vous qui craignez, ne crains point, car je t'ai racheté, j'ai payé un grand prix pour toi, je suis mort sur la croix, c'est pas avec de l'argent, c'est pas avec de l'or que je t'ai racheté au prix de ma vie, j'ai donné ma vie pour toi, alors tu m'es cher, tu m'es précieux, ne crains point. Je t'ai racheté et je te rachète tous les jours, je te garde pour moi. Et puis, je t'ai appelé par ton nom. Oh, que j'aime cette expression. Il connaît vos noms. Mes brebis connaissent ma voix. Et moi, je les connais. Je t'ai appelé par ton nom. Tu as un nom et le Seigneur le sait. Et maintenant, quand il veut te parler, il t'appelle par ton nom. Mais il faut écouter quand il nous appelle. Vous avez une maman puis un papa qui vous appelle, qui dit Jean ou Jacques ou Éric, je ne sais pas vos noms. Et puis, quelquefois, vous ne répondez pas. Vous avez pourtant attendu, entendu. Il vous a appelé ou votre maman vous a appelé une fois. Et qu'est-ce qu'elle doit faire quelquefois? Elle doit vous appeler deux fois, comme si vous n'aviez pas entendu. Mais vous savez, Dieu aussi, dans son amour, il aime nous appeler même plusieurs fois, une fois, deux fois, même si l'on n'y prend pas garde. Mais j'aimerais que vous puissiez tout de suite, quand vous entendez sa voix, et que vous savez que c'est lui qui vous appelle par votre nom, que vous puissiez tout de suite dire, me voici. Car Jésus vous dit, tu es à moi, j'ai besoin de toi, tu es à moi, je vais te garder même si tu passes par les eaux, même si tu passais par le feu, je suis capable de te préserver. Tu n'as rien à craindre parce que tu es à moi. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien à craindre? Parce qu'on est à lui, on est au Seigneur. Et puis je voudrais souligner simplement ce matin, parce que nous n'allongerons pas, eh bien, je voudrais souligner que le Seigneur aime non seulement à nous appeler par notre nom, mais quelquefois il aime nous appeler deux fois par notre nom. Et à travers toutes les Écritures, j'ai remarqué qu'il y a sept personnes qui ont connu ce double appel. La première personne que je vous citerai a été souvent appelée par Dieu, mais un jour, Dieu l'a appelée, un jour, c'était plutôt la nuit pendant qu'il dormait, il l'a appelée deux fois. C'est au chapitre 22 de la Genèse, vous connaissez toute son histoire. C'était Abraham, il l'a appelé dans la nuit une première fois, « Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va, offre-le sur la montagne que je te dirai, offre-le en sacrifice. » Et c'était quelque chose de terrible pour Abraham. Mais il a obéi. Au premier appel, Dieu lui a dit « Abraham ». Et Abraham a dit « Me voici ». Et il est parti. Il a marché pendant 3 jours avec Isaac, son fils, qui portait le bois pour le sacrifice. Le père avait le couteau, il y avait le feu. Et puis l'enfant avait le bois sur ses épaules, donc il était déjà plus un petit garçon, il était déjà un adolescent en tout cas. Et quand ils sont arrivés vers le lieu que Dieu avait désigné, le petit Isaac a dit, mais papa, il y a tout pour l'Holocauste, oui, mais il manque quelque chose. L'agneau, où est-il l'agneau pour l'Holocauste? Il ne savait pas que c'était lui qu'on allait lier sur l'autel et que le père devrait égorger. Il ne le savait pas, mais Abraham lui a dit, le Seigneur y pourvoira. Ne t'inquiète pas, Isaac, le Seigneur y pourvoira. Et Isaac ne s'est plus inquiété. Mais quand ils sont arrivés là, papa a pris Isaac, puis a dit, tu sais, c'est cela qu'il demande Et Isaac s'est laissé faire. Oh, vous savez, quand vous vous laissez faire par le Seigneur, c'est merveilleux. Il s'est laissé faire, il s'est laissé lier sur l'autel. Puis, il a vu son papa qui prenait le couteau. Et alors, les yeux d'Isaac ont regardé les yeux de papa Abraham. Oh, qu'est-ce qui a dû se passer? Puis, tout d'un coup, on a entendu Abraham, Abraham. Deux fois. Ça, c'est le premier personnage. Deux fois. Abraham, Abraham. Ne mets pas la main sur ton fils. Le bras d'Abraham a été retenu. Mais là, Abraham a été appelé combien de fois? Deux fois, c'est le verset 11. Abraham, Abraham. Oh Abraham, je sais, tu n'as pas besoin de faire ça. Maintenant, je sais que tu ne m'as pas refusé ton fils. Tu as accepté de tout donner. Abraham, Abraham, ne fais pas cela. C'est merveilleux quand Dieu nous appelle. Deux fois. Abraham, Abraham. Il y avait urgence dans cette situation et Dieu n'a pas seulement appelé une fois Abraham, il l'a appelé deux fois. Maintenant, je connais que tu crains Dieu. Le deuxième personnage, et vous méditerez là-dessus, c'est Jacob. Jacob, dont nous aurons l'occasion de vous reparler. Au chapitre 46, de la Genèse au verset 2. Jacob a passé par toutes sortes d'épreuves. Il croit que son fils Joseph est mort. Il y a des années que cela s'est passé. Puis voilà que ses autres fils reviennent d'Égypte. Puis ils lui disent, on a retrouvé Joseph. Joseph est vivant. Et il te demande de descendre en Égypte. Le cœur de Jacob, il a dit qu'il est resté froid. Il ne croyait pas à ses enfants parce que ses enfants avaient dit des mensonges. Vous savez, les enfants, il ne faut jamais dire des mensonges. C'est affreux parce qu'après un papa ne peut plus nous croire. Eh bien, Jacob, il ne croyait plus ses enfants parce que ses enfants lui avaient menti. Il lui avait dit qu'une bête féroce avait déchiré Joseph. Et ce n'était pas vrai, c'est eux qui l'avaient vendu. Alors, même quand on lui dit, ton fils Joseph, on l'a vu, oui, il est vivant, une bête ne l'a pas déchiré. Mais vous m'aviez dit qu'une bête l'avait déchiré. Mais on te dit qu'il est vivant, et puis voilà, il y a les chars du Pharaon, il est le premier après le Pharaon. Alors, pour finir, le cœur de Jacob s'est un peu réchauffé, puis il a dit, eh bien oui, j'irai. Mais il avait peut-être encore un doute. Alors c'est là que je trouve tellement merveilleux. Quand le Seigneur veut que nous fassions quelque chose, il ne veut pas que nous ayons des doutes. Alors, dans le chapitre 46 de la Genèse, il est dit que quand Jacob est arrivé à Beersheba, sur le chemin qui le conduisait en Égypte, eh bien, l'heure étant venue pour lui d'aller vraiment en Égypte pour retrouver Joseph, Dieu l'a appelé deux fois. Jacob, Jacob. Et il dit, comme toujours, me voici. Ou, comme dit une autre traduction, oui, je t'écoute. Jacob, Jacob, dit la voix du Seigneur dans la nuit. Et pourquoi lui dit-il? Il lui dit, tu peux y aller. Va en Égypte. C'est vrai, Joseph s'y trouve, et c'est même lui qui te fermera les yeux. Et quand tu mourras, on te ramènera au pays de Canaan. Quelle tendresse et quelle douceur. Jacob, Jacob, n'aie pas de doute. C'est moi qui te conduis. Tes enfants t'ont menti, mais moi, je ne t'ai pas menti. Tu peux aller en Égypte. Deux fois, il reçoit cette certitude et ainsi il n'a plus de doute ni d'échappatoire. Maintenant, le troisième cas où nous trouvons Dieu parlant deux fois, appelant deux fois par son nom le même homme, c'est Moïse. Au chapitre 3 de l'Exode, le verset 4, « Je t'ai appelé par ton nom, Moïse. » Moïse est âgé de 80 ans. Il est berger, pâtre, il conduit les brebis de son beau-père derrière le désert. Et puis tout d'un coup, il a une vision, un buisson d'épines tout en feu. Alors quand vous voyez un buisson d'épines tout en feu, et les épines même ne se consumaient pas, alors on est intéressé, et puis il se Et il se détourne pour voir, et tout d'un coup, il entend Moïse, Moïse. Oh, depuis 40 ans, le pauvre Moïse pensait que Dieu l'avait oublié, que Dieu ne pensait pas à lui. Puis maintenant, il entend cette voix qu'il appelle deux fois par son nom, Moïse, Moïse, mais c'est toujours dans mon cœur. Moïse, Moïse, mais tu es dans le désert, mais je pense à toi. Moïse, Moïse, tu as 80 ans. Mais moi, je suis l'Éternel, je suis vivant, c'est maintenant qu'on va commencer de travailler ensemble. Moïse dit, mais je suis trop vieux peut-être. Il dit, oui, c'est toi que j'ai choisi, mais l'heure n'était pas venue quand tu as voulu toi-même délivrer Israël d'Égypte. Mais je t'ai choisi, Moïse, je ne t'ai pas oublié, Moïse, Moïse. C'est tellement beau. Vous allez méditer sur cela. Quand Dieu appelle par nos noms deux fois, c'est qu'il nous aime tellement. Et c'est le signe qu'il ne nous a pas oubliés et qu'il est très familier avec nous. Il ne se dit pas, mais comment est-ce qu'il s'appelle cet homme-là qui conduit les brebis de Jéthro, le beau-père? Non, il le connaît, je vous connais, vous croyez que vous êtes oublié? Moïse. Moïse, que c'est beau, que c'est merveilleux, laissez-vous pénétrer par la parole du Seigneur, même au désert, quand vous êtes tout seul avec des animaux, le Seigneur vous connaît, il connaît les brebis par leur nom, il vous connaît par vos noms, il a parlé au Sinaï, il a parlé en Mésopotamie quand il a appelé une première fois Abraham. Il lui a parlé deux fois sur le mont Morija. Il a parlé à Jacob dans la ville de Beersheba alors qu'il s'en allait en Égypte. Et puis, Dieu ne parle pas seulement à des vieillards comme Moïse, mais vous savez à qui il a parlé? Mais il a dû s'y prendre à quatre reprises. C'était une nuit près du matin, parce qu'il y avait des lampes qu'on devait allumer chaque matin, et elles n'étaient pas encore tout à fait éteintes. Donc, c'était vers l'aurore, un peu avant l'aurore, il faisait encore nuit. Et puis, un petit garçon qui s'appelait Samuel. Et il entend, Samuel! Et il a cru que c'était le vieil Élie, alors il court vers le vieil Élie. Il dit, me voici, tu m'as appelé? Non, je t'ai pas appelé. Élie a pensé qu'il avait fait un mauvais rêve. Va, recouche-toi. Et puis il se recouche. Puis il entend une seconde fois, Samuel. Alors, il se lève de nous. Mais Élie, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Puis voilà, une troisième fois. Samuel. Alors le petit Samuel s'est réveillé, puis il retourne une troisième fois vers Élie. Alors seulement à ce moment-là, Élie commence à réfléchir, le vieil Élie. Et il se dit, c'est peut-être Dieu qui l'appelle. Alors il lui donne un conseil. Si tu entends encore cette voix, tu diras, parle ton serviteur. Écoute, hein. Alors, voilà que la quatrième fois, Dieu répète son nom combien de fois? Deux fois. C'est ça qui est tellement beau. Il ne lui dit plus seulement une fois, comme les trois premières fois à Samuel, mais il lui dit, Samuel, Samuel. Alors là, c'est plus vieil Élie. Samuel, Samuel, c'est le Seigneur qui connaît le petit garçon et qui veut bénir le petit garçon, qui veut l'employer. Et nous avons des petits garçons comme nous avons des petites filles dans ce camp. Et j'aimerais le dire dans ce début du camp, Dieu veut bénir vos enfants, les petits, aussi bien que les papas et les mamans. Dieu, notre Dieu, celui que nous connaissons, c'est un Dieu qui nous parle et qui nous dit, tu es à moi. Ça va pour vous les grands, hein, mais ça va aussi pour les petits. Il vous dit, tu es à moi. C'est moi qui t'ai formé. Et où est-ce que nous avons été formés? Dans le ventre de notre maman. Eh bien, quand je t'ai formé dans le ventre de ta maman, tu étais déjà à moi. Avant d'être à ta maman, avant d'être à ton papa, tu étais à moi. Quelle valeur! Oh, nos enfants, Dieu nous dit que c'est lui qui les a transformés. Et alors, relisez, vous les grands, le psaume 139. Nous avons été formés d'une étrange et admirable manière. Nous étions d'abord une substance informe, puis nos membres ont été faits d'une façon merveilleuse. Et quand il y pense, celui qui a écrit ce psaume, il dit, j'ai été fait d'une façon merveilleuse. C'est une chose trop merveilleuse, je ne peux pas la comprendre. Alors quand on ne peut pas comprendre, qu'est-ce qu'on fait? On adore, ben, c'est ça qu'on voudrait ce matin, qu'on soit tellement rempli de cet amour du Seigneur. Qu'on adore. Puis qu'est-ce que c'est adorer? C'est de dire, je t'aime, Seigneur. Tu es tellement merveilleux, tu es tellement... Vous n'avez pas besoin de faire des phrases. Marie, quand elle a fait son Magnificat, ça a jailli de son cœur. Elle n'a pas simplement employé son cerveau, mais elle s'est souvenue de ce qu'était l'Éternel, de ce qu'elle était, elle, toute petite, toute jeune fille. Et puis Dieu l'avait choisie. Elle était son Seigneur. Elle lui appartenait. Tu es à moi. Elle l'a cru, ce passage. Elle s'est laissée faire. Elle s'est acceptée comme elle était. Elle n'était que la servante du Seigneur. Eh bien, je suis la servante du Seigneur. Si tu veux faire quelque chose avec moi, qu'il me soit fait selon ta parole. Oh, que ces sentiments puissent vraiment nous pénétrer. Et vous savez ce qu'est devenu Samuel, un grand prophète de l'Éternel. Mais maintenant, je vais vous parler d'une femme. C'était dans le chapitre 3 du premier livre de Samuel, au verset 10. Mais maintenant, je voudrais vous parler d'une visite de Jésus dans un village. Et ce village, nous savons que c'était Béthanie, quoique ça ne soit pas dit dans le récit que je vais vous lire au chapitre 10 de Luc. Mais dans d'autres évangiles, nous apprenons que ce village était Béthanie. Et Jésus, le roi du ciel, qui était né du sein de Marie, eh bien, il était en chemin avec ses disciples, verset 38 du chapitre 10, et il entra dans un village, et il y avait là une femme nommée Marthe qui le reçut dans sa maison. Quand on dit qu'une femme l'a reçue dans sa maison, ça veut dire que la maison appartient à qui? À Marthe. Hein? Alors peut-être que Marthe était veuve, ça on n'en sait rien, mais en tout cas, elle était l'aînée d'une famille où il y avait un frère qui s'appelait Lazare, et puis une sœur qui s'appelait Marie. Or, il est dit que Jésus aimait cette famille. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Alors, ils vont donc, Jésus vient avec ses disciples dans cette maison amie. Et c'est Marthe, qui est la propriétaire, enfin la patronne, qui le reçoit dans sa maison. Donc, elle est vraiment gentille. Puis, verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Parce que qu'est-ce qu'elle préparait, Marthe? Un dîner, un repas. Et vous savez, quand Jésus arrive avec combien de disciples? 12, ça fait combien de personnes? 13, c'est pas drôle, hein? 13 qui viennent comme ça, là, sans tambour ni trompette, et il faut faire à manger, et puis Marthe, c'est une femme de tête, et c'est une femme qui veut honorer le Seigneur, parce que elle sait que le Seigneur l'aime, elle sait qu'elle est à lui, et que lui est à elle. Alors, elle trouve quand même que Marie, là, qui est restée assise au pied du Seigneur, qui aime bien écouter sa parole, eh bien, pourrait quand même lui aider. Alors, elle en parle. Quand on a quelque chose contre quelqu'un, à qui est-ce qu'on devrait le dire? Suivez l'exemple de Marthe. Dites au Seigneur, mais ça ne fait rien que cette personne-là fasse ceci ou fasse cela. Si vous savez, quand on donne des conseils au Seigneur, c'est toujours un peu dangereux. Hein? Parce que, vous savez, il sait jouer au ping-pong, le Seigneur. Hein? La balle nous revient. Hein? Alors, faites bien attention de ne pas vouloir toujours donner des conseils au Seigneur. Ça ne fait rien qu'il se passe ceci. Tu ne pourrais pas lui dire à cette personne de faire la chose, de m'aider. Tu ne pourrais pas lui dire, faites attention, hein, ne donnez pas de conseils au Seigneur. Il sait tellement mieux que vous ce qui est bon pour vous.
qu'il faut. Nous, nous venons toujours, nous voulons que les choses se passent d'une certaine manière. Et le Seigneur lui trouve bon autrement. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Oh, que j'aime cette façon de répondre. Il dit à Marthe, Marthe, Marthe. Il l'appelle deux fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est plein de tendresse pour elle. C'est pas un jugement. Je lui dis pas, Marthe, Marthe. Hein? Pas du tout. Comme pour la secouer, comme pour lui laver la tête. Marthe, Marthe. Il l'exhorte avec tendresse, avec douceur. Et puis il enlève au fond l'animosité ou l'énervement qu'a eu Marthe, Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites de beaucoup de choses. Ne crains pas. Je t'ai racheté, tu es à moi. C'est pas encore des grandes eaux que tu traverses, c'est pas encore le feu, même si tu es à la cuisine. Mais tu ne seras pas brûlé, puis ton rôti ne sera pas brûlé, rien ne sera brûlé. Marthe, Marthe, reste dans la paix, ne perds pas les pédales, reste dans la paix. Marthe, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes. Une seule chose est nécessaire. Ça, on peut l'interpréter de différentes manières. Au lieu de faire 36 plats comme tu es en train de les préparer, tu aurais pu faire une seule chose. Je ne suis pas venu pour manger. Je suis venu seulement pour être restauré, pour avoir de la communion avec vous. Recevez vos invités simplement. Pensez que, au lieu de vous donner toute une tâche qui va vous ennuyer, même vous fatiguer, puis une fois que les gens sont partis, vous dire « Ah, quel débarras hein. !» Heureusement qu'ils sont loin. Hein. Au bout de 3 jours, le poisson pourrit. Voilà ce qu'on m'a dit un jour. Hein, ensuite, okay. Moi, je reste pas plus de 3 jours chez les gens, parce qu'au bout de 3 jours, le poisson sent mauvais. Elle se prenait pour un poisson. Et alors, elle disait, vous ne paraissez plus de 3 jours chez les gens, parce qu'au bout de 3 jours, ils en ont marre. On nous reçoit bien, on met tout en l'air, et puis après, on est fatigué. Et puis, on trouve que c'est tannant, comme vous dites. Hein? Alors, non. Que le Seigneur nous enseigne par sa parole. C'est sa parole. Et je veux la manger avec vous ce matin, avant d'adorer le Seigneur. Une seule chose est nécessaire. C'est aussi, oui, c'est la communion spirituelle qui passe en premier. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Et comme je dis souvent, je pense qu'après Marie a pu raconter à Marc tout ce que le Seigneur lui avait dit. Si elles avaient été les deux dans la cuisine, le Seigneur aurait été tout seul, il n'aurait pas pu parler. Tandis que comme ça, ils se partageaient. Et puis ensuite, Marie a certainement aidé à faire la vaisselle quand le Seigneur est parti, et puis elle a pu raconter à Marthe tout ce qu'elle avait entendu du Seigneur. Parce que si on reçoit une parole du Seigneur, c'est pour quoi faire? Pour la donner. Comprenez-vous? Alors soyons satisfaits de la part que Dieu nous a donnée. Et croyons toujours que c'est la bonne part. Et puis maintenant, j'ai encore 2 noms. Et ça fera nos 7 personnages, et je trouve magnifique que les enfants écoutent encore, alors je veux croire que les parents aussi écoutent. C'est l'apôtre Pierre, hein, au chapitre 22 de Luc, au chapitre, au verset 31, c'est la nuit où Jésus fut livré. Et vous connaissez l'apôtre Pierre et son tempérament, lui, il est sûr d'être fidèle. Et je pense que plusieurs parmi vous, vous êtes sûrs que vous serez fidèles au Seigneur, que vous aimerez toujours le Seigneur, que vous vous souviendrez toujours qu'il a dit « Ne crains point, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai racheté, c'est moi qui t'ai formé, tu es à moi, tu es à moi. » Bien oui, Simon savait qu'il était au Seigneur. Mais Simon disait au Seigneur, tu sais quand même, tu t'abandonnerais, moi, je ne t'abandonnerai pas. Alors, le Seigneur trouve bon de l'avertir. Au verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, vous voyez, il ne l'appelle pas Pierre, Pierre c'est son nouveau nom, mais il l'appelle de son ancien nom, de son nom naturel. Il s'appelle Simon, le fils de Jonas, il sera appelé plus tard Céphas, c'est-à-dire Pierre. Mais quand Jésus l'avertit, il l'appelle par son nom naturel. Mais
N'ayez pas peur, même si le Seigneur connaît que notre nature est toujours la même. Hein. Simon, Simon, c'est comme vous êtes que le Seigneur vous aime. Ne dites pas, oh, si j'étais mieux que ça, hein, le Seigneur m'aimerait davantage. C'est pas vrai. Simon, Simon, toi qui as reçu ce nom de tes parents, de ta famille, Simon, Simon, il vous aime et il vous appelle deux fois aussi par votre nom pour vous avertir. Simon, Simon, verset 31, Satan a réclamé pour vous, vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour ça. Vous croyez à ça? Vous demandez souvent aux gens, j'aimerais bien que vous priez pour moi. Et bien sûr, on veut le faire, hein. Mais si c'est Jésus qui dit, moi j'ai prié pour toi, et je te connais, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai formé, et j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu ou converti, affermi tes frères. Alors, Pierre dit, mais Seigneur, je suis prêt à aller à la mort pour toi, et en prison, oui, et à la mort. Vous savez bien que c'est, il n'a pas eu ce courage, hein, puisqu'il a renié le Seigneur devant une petite servante, parce qu'il en a eu honte. Alors, dites-vous que même si vous êtes dans les sentiments de Pierre, tellement sûr de vous, même s'il vous arrivait quelque chose, le Seigneur vous aime encore. Simon, Simon, j'ai prié pour toi. Ça ne vous fait rien ce matin d'entendre ça? On ne voulait pas prendre au début de ce camp. Il a prié pour moi. Il me connaît dans ma nature. Il sait bien que je suis faible. Il sait bien que la chair est faible. Simon, Simon, j'ai prié pour toi. Deux fois, il est appelé ainsi. Et alors, j'arrive au dernier. Le dernier, c'est qui? Qui a entendu? Oui, c'est l'apôtre Paul. C'est le septième. Et je vous ai dit que un jour, celui qui est dans le ciel, qui nous a préparé une place, viendra à notre rencontre. Bien voilà, un Saul de Tarse. Saul de Tarse qui persécutait les chrétiens, qui ne croyaient pas que Jésus était ressuscité, qui pensait que les gardiens du tombeau avaient vu les disciples prendre le corps du Seigneur et l'enlever. On avait payé les gardiens du tombeau pour dire des mensonges au sujet de Jésus. Et voilà que ce Saul de Tarse qui avait vu mourir Étienne, Étienne qui avait dit dans une vision alors qu'on lui lançait des pierres et qu'il allait mourir, il dit, mais je vois le ciel ouvert. Il dit pas, je vois les pierres, ça me fait mal, j'ai peur. Pas du tout. Quand tu passeras par le feu, je serai avec toi. Par les rivières, elles ne te submergeront pas. Étienne est submergé par quoi? Par des cailloux, par des pierres, on veut le tuer en lui lançant des pierres. Puis vous savez, on ne lui lance pas des pierres sur les pieds. Hein. Si on peut atteindre la tête, ça ira mieux. Hein. Eh bien, il est là, mais sa tête, à lui, à Étienne, elle n'essaye pas d'éviter les pierres. Ses yeux regardent le ciel. Et il dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Puis une pierre vient encore. Puis il baisse la tête. Elle dit, Seigneur, pardonne-leur. Comme son sauveur. Il est comme son sauveur. Reçois mon esprit. Et il a dit, il s'endorme. C'est beau de s'endormir sous des pierres. Il n'a pas avalé les pierres. Il n'a pas avalé des pilules. Non. Il s'est endormi sous les pierres. Voilà la parole de Dieu. Et Saul de Tarse avait vu cela. Oh, ça avait dû lui faire quelque chose. Il dit qu'il est ressuscité. Les disciples disent qu'il est ressuscité. Celui-là qui vient de mourir, il dit qu'il l'a vu debout. C'est un illuminé, alors. Puis, il continue. Il va sur une ville qui s'appelle Damas et il va pour persécuter les chrétiens. Il est midi. C'est une grande chaleur. Le soleil est éblouissant. Tout à coup, il tombe à terre, dans une lumière extraordinaire, et il entend une voix qui vient du ciel qui dit Saul, Saul, deux fois. Saul, Saul, acte 9, verset 4 à 5, chapitre 22, verset 7 à 8, chapitre 26, versets 14 à 15, trois fois dans les Actes, il parlait de ça. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc il y a quelqu'un dans le ciel, et c'est une voix d'homme, c'est une voix humaine, il y a quelqu'un dans le ciel, lui, Saul de Tarse n'a jamais rencontré le Seigneur sur la terre, mais il apprend qu'il y a quelqu'un dans le ciel. Alors il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et quelle est la réponse? Je suis Jésus. Il prend le nom qu'il avait sur la terre. Il dit pas, je suis le Seigneur de gloire, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis le Créateur. Il dit, je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais Saul de Tarse aurait pu dire, mais Seigneur, moi je t'ai pas vu, je t'ai pas persécuté. Oui, mais quand tu touches à un de mes disciples, c'est à moi que tu touches. Et c'est ça, la révélation extraordinaire de Saul de Tarse, c'est qu'il a compris que le Seigneur, c'était la tête dans le ciel et tous les croyants sur la terre. Les membres du corps, il a eu la vision du Christ total. On ne peut plus séparer le Christ de son corps. On ne peut pas vous séparer de Jésus-Christ. Vous êtes liés à Jésus-Christ comme les membres, vos membres sont liés à la tête. Rien ne peut vous séparer de lui. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors vous allez méditer là-dessus et je pense que vous aurez de bonnes et saines pensées et que vous pourrez jouir de cette merveilleuse nature. Souvenez-vous de cette parole d'Ésaïe 43. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Ô Jacob, mais vous mettez votre nom à la place de Jacob, qui t'a formé, ô Israël, vous mettez votre nom à la place d'Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et puis toutes les promesses sont là pour vous enlever toute crainte, alors que nous puissions commencer notre culte dans la joie, dans la reconnaissance, en pouvant exprimer au Seigneur que nous avons ressenti quelque chose, en pouvant l'entendre nous appeler deux fois par notre nom. Même quand il appelle Marthe deux fois, c'est une marque d'affection et non de réprobation. C'est pas parce qu'il n'est pas content de Marthe qu'il lui dit Marthe, Marthe, mais c'est parce qu'il voudrait que Marthe, au lieu de se sentir frustrée, soit vraiment heureuse. Quelle que soit votre situation, n'acceptez pas les frustrations. Le Seigneur veut vous remplir, quel que soit votre état. Pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.